donner une voix à celles qui n'en ont pas. Un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris 93.9 FM.
Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Radio Campus Paris. L'émission Donner une voix à celles qui n'en ont pas. Celles qui n'en ont pas, ce sont ces femmes. Les femmes valides, mais aussi les femmes handicapées, à qui on donne que très rarement la voix, la parole, eh bien, dans cette émission, elles sont libres de dire ce qu'elles ont traversé, comment elles ont surmonté ou pas les difficultés. Elles savent que dans cette émission, nous sommes là pour les accueillir, mais l'émission a aussi pour but, pour tous ceux qui découvriraient l'émission a aussi pour but d'apporter aide et conseils. Donc, tout au long de l'émission, eh bien, nous aurons Claire qui nous donnera des numéros de téléphone de manière à pouvoir être aidée en situation d'urgence. Mais nous recevrons aussi dans d'autres émissions, dans diverses émissions, nous recevrons des associations qui apportent aide et conseils. Voilà, alors tout de suite, eh bien, je vais dire bonjour à Saja. Saja, bonjour.
Saja, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Saja. Saja, comment tu te sens? Parce qu'aujourd'hui, tu réalises l'émission.
Je sens bien, merci.
Bon, voilà, bah, ça va bien se passer. Voilà, Saja qui est très brillante et qui réalise sa première émission. Voilà, je lui mets bien la pression. voilà, Saja, merci en tout cas d'être là avec nous, quoi qu'il arrive. Ben, j'accueille aussi notre deuxième collaboratrice. Et ben, c'est Claire, bonjour.
Bonjour Moni, bonjour à toutes et à tous.
Oui, voilà, ben Claire, je pense que voilà, Claire, comme Saja, hein, qui était aussi présente il n'y a pas très longtemps, Claire, vous la connaissez depuis un moment, elle vous donne régulièrement les numéros de téléphone utiles, nécessaires à connaître, n'hésitez pas à noter, il y en a à chaque fois de nouveaux, vous pourriez un jour en avoir besoin, alors n'hésitez pas à prendre note. Alors, donc donner une voix, c'est donc pour ceux qui découvriraient l'émission, c'est donc une émission qui traite des maltraitances et violences faites aux femmes et notamment aux femmes handicapées. Et aujourd'hui, on va parler d'un lieu, un lieu qui accueille des personnes handicapées et entre autres des femmes handicapées, mais pas seulement. Hein, ça peut être des familles, ça peut être des hommes, des femmes, des couples. C'est un lieu de vie, c'est une résidence pour non-voyants qui est située dans Paris. Et aujourd'hui, j'accueille Isabelle. Isabelle qui va nous parler de la résidence Saint-Louis. Bonjour Isabelle.
Bonjour Moni, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir. Alors, vous n'êtes pas venue seule Isabelle, vous êtes venue avec Karine. Un petit bonjour à Karine, elle est plus réservée. Donc je vais pas la solliciter, mais elle est venue vous donner du courage parce qu'il en faut, il faut bien le dire hein. Il en faut, bien que vous Isabelle, vous avez choisi. Et c'est intéressant aussi de parler de ce regard que vous avez. On peut dire que vous êtes chrétienne. Hein, okay. C'est aussi, ça fait partie de vous. Vous aurez l'occasion de parler plus longuement de vous. Mais vous avez eu envie de parler de ce que vous avez connu de positif. Et c'est important aussi de rendre à César ce qui est à César. Il y a des gens qui ont dirigé la résidence Saint-Louis, je pense à Madame Fallet. On évite en principe de donner des noms dans cette émission, mais là, c'est pour la bonne cause. Ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont collaboré, qui ont été bienveillants avec des personnes handicapées, qui ont pris soin des personnes handicapées. Je pense, alors j'ai beaucoup de noms sur ma liste, je pense à Madame Fallet, bien sûr, qui a été la directrice pendant de nombreuses années, qui n'avait que souci, que de vous aurez l'occasion d'en parler, que de veiller aux personnes handicapées visuelles. Je pense à Madame Bergère, dont vous nous parlerez longuement. Je pense à Micheline, à Didier et beaucoup, beaucoup d'autres. Jacqueline Labbé, Monsieur Charles et Claire Stenmetz, Denise. Voilà, des générations, des décennies avec des personnes bienveillantes. Et c'est de toutes ces personnes dont vous allez nous parler, Isabelle. Alors Isabelle, avant de parler de la résidence Saint-Louis, racontez-nous un peu qui vous êtes et comment vous êtes arrivée à la résidence Saint-Louis.
Alors, un vaste programme.
Alors déjà, vous êtes malvoyante, c'est important.
Je suis née malvoyante.
Voilà, vous êtes née malvoyante, vous êtes ce qu'on appelle déficiente visuelle. Mm-hmm. Donc vous êtes née malvoyante, vous avez eu un cursus qui n'était pas spécialisé hein, à l'époque. Vous avez grandi dans un milieu classique.
Oui.
Vos parents étaient un peu dépassés, hein, donc de toute façon, il n'existait pas tant de structures que ça. Donc, vous avez fait votre scolarité dans un cursus classique.
Oui, exactement.
Alors, ce n'était pas simple.
Hein. Ça n'a pas été toujours très simple, parce que quand on est malvoyant, et qu'on ne voit rien au tableau noir et que toutes les...
Ah, voilà. Ça, c'est important. Pardonnez-moi, Isabelle, je vous coupe. Mais tous les déficients visuels, tous les malvoyants, les non-voyants, c'est encore autre chose. Mais tous les malvoyants se rappellent tous de ce fichu tableau noir où on ne voyait absolument rien, où on attendait désespérément que l'enseignante lise ce qu'elle écrit pour pouvoir qu'elle puisse nous dicter sans même le savoir, en fait.
Hein.
Voilà, c'est ça que vous avez connu.
Voilà, c'est vrai que quand on entendait le bruit de la craie et qu'il n'y avait pas de son au bout, c'était compliqué. Mais bon, après ça c'est quand même, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de chance parce que les professeurs étaient dans l'ensemble très bienveillants avec moi et les élèves aussi. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et...
Oui, je vous écoute.
Je n'ai pas eu... De maltraitance hein, de ce côté-là.
Non.
J'ai pas été du tout harcelée, pas du tout moquée. C'est vrai que c'est très important.
C'est vrai parce que vous aviez quand même une différence et en général, c'est souvent la différence qui attire les violences et les maltraitances, enfin, le harcèlement scolaire.
Voilà, le harcèlement scolaire, c'est terrible, quoi. Voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en plus, j'avais un regard qui était complètement sur le côté.
Oui, donc ça se voyait, en fait.
Et du coup, ça se voyait vraiment beaucoup, et ça aurait été facile pour les élèves de se moquer de moi et de me mener une vie horrible, alors que là, ça n'a pas été du tout le cas. J'ai eu beaucoup de chance.
C'est déjà ça, hein, parce que les parcours de déficients visuels ne sont pas simples, mais vous avez eu au moins cette chance-là d'évoluer dans un milieu valide, où c'était déjà quand même assez compliqué, l'apprentissage, mais vous n'avez pas vécu le harcèlement. Et puis donc, vous arrivez adulte.
Et je...
Au bac, vous...
J'ai passé mon bac.
Oui. Toujours avec une déficience visuelle. Hein,
Bac. Avec un tiers-temps supplémentaire, etc.
Alors, c'est important aussi, tout ce temps-là, bien sûr, vous êtes chez vos parents, il n'y a pas d'institut spécialisé pour les personnes... Vous étiez ce qu'on appelle une personne limite. Hein, vous n'aviez pas de canne, pas de chien. Quand les gens sont limites, eh bien, on ne les met pas en institut spécialisé et on ne les équipe pas. Pour autant... Ça n'empêche pas les difficultés visuelles. Hein.
Loin de là. Et en fait, à force de me faire croire que j'étais comme les autres, eh bien, ça m'a joué un très, très mauvais tour un jour parce que j'étais adulte et je me promenais... Je flânais ou je traversais en tout cas le parvis de Notre-Dame et il y a des petits plots sur ce parvis et qui sont traîtres et moi je ne les ai pas vus et je suis rentrée de plein fouet là-dedans et ça a été tellement violent comme douleur que j'ai vu 36 chandelles. J'ai vraiment été obligée de m'asseoir mais en catastrophe sur ce plot parce que je pouvais plus avancer. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit c'est fini. J'achète une canne.
Voilà, j'achète une canne et ça a été le nouveau départ en fait, hein, avec cette canne.
Il y a eu un nouveau départ. Pour moi, c'était déjà une énorme étape.
Oui,
mais
bien
par
sûr.
Contre, mes parents, surtout ma mère, le premier jour où j'ai sorti ma canne pour sortir avec elle, elle m'a dit « Tu vas pas quand même sortir avec ça ?»
Voilà. Parce que, en fait, pour les déficients visuels, c'est un outil. C'est un outil qui permet une grande liberté, qui permet d'avancer dans la vie. Mais pour ceux qui le voient, eh bien, ça renvoie à quelque chose de triste, tout ça. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui pourraient avoir dans sa famille des personnes qui sont amenées à prendre une canne, n'oubliez pas que la canne blanche, c'est un facteur de liberté pour la personne qui l'utilise.
Et de sécurité.
Et de sécurité, bien sûr. Bien sûr. Alors, Isabelle, vous êtes au lycée, vous vivez chez vos parents, vous allez très rapidement passer des examens et vous allez travailler.
Oui. Hein,
vous allez travailler, vous serez toujours à ce moment-là chez vos parents ?
Oui.
Voilà, oui, oui.
J'ai quitté mes parents, en fait, au moment de leur décès, finalement.
Voilà, donc, c'est bien.
Voilà. Mmh, mmh. Et j'ai alors 40 ans.
Oui.
Et du coup, grâce à une de mes amies, j'ai connu la résidence Saint-Louis.
Voilà, qui est le sujet dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. La résidence Saint-Louis, qui est une résidence qui se situe dans le 12e arrondissement, de l'autre côté de l'Opéra Bastille. C'est une qui est dans l'enceinte des 15-20, mais ce ne sont pas des malades, hein, que les choses soient claires, parce qu'on entend souvent les gens dire « vous habitez l'hôpital, donc vous n'êtes pas malade, vous êtes des personnes handicapées, et vous vivez dans cette résidence qui est historique, en fait. Hein, la résidence Saint-Louis remonte à Saint-Louis. Hein, oui. On va recevoir une historienne qui nous parlera de l'histoire de la résidence Saint-Louis, du terrain, qui était à l'origine un jardin de Le Nôtre. Donc, vous arrivez à la résidence Saint-Louis.
Voilà, ça c'est en 2000. Mmh. Et j'ai été accueillie par Madame Bergère, pour ne pas la nommer.
Mmh. Alors, qui était à l'époque Madame Bergère? Si je relis les notes, Madame Bergère était secrétaire de la résidence, et c'est elle qui accueillait les nouveaux.
Mmh. Et ça a été très sympathique comme accueil. Et voilà, du coup, je me suis petit à petit fait à ce nouvel environnement. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très grand avantage, moi, je trouve, à être à la résidence. C'est que c'était en plein centre de Paris et qu'il y avait plein de lignes de métro,
voilà, voilà.
Plein de lignes d'autobus.
Absolument.
Et que pour nous, c'est merveilleux de pouvoir se déplacer très facilement avec les transports en
absolument,
commun.
Absolument, parce qu'il faut le dire, Paris est une ville, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déficients visuels, Paris est une ville très pratique pour les déficients visuels. Ah, il y a le métro, c'est très simple, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très simple pour les personnes handicapées visuelles de prendre le métro, de prendre le bus, et à Bastille, puisque cette fameuse résidence se situe à Bastille, eh bien, on est très bien situé pour pouvoir se déplacer.
Parce qu'on a beaucoup de gares, on est relié à la gare Montparnasse, à la gare de Lyon, à la gare de l'Est, à la gare du Nord.
Alors, on peut peut-être s'interroger sur comment sont les lieux, hein, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les lieux de vie de personnes handicapées visuelles. On a l'impression qu'on vous amène j'ai souvent entendu des gens dire, mais on vient vous faire le ménage, on vous prépare les repas. Eh bien, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, non, Isabelle, vous allez nous raconter.
En fait, on a un appartement normal, comme tout un chacun, et qui n'est pas du tout spécialement adapté. On a une pièce principale de vie, on a une vraie cuisine, une vraie salle de bain, un cagibi et une petite entrée. Et puis, à nous de l'installer et de l'organiser.
Oui, c'est un studio lambda, quoi,
voilà.
En fait.
Hein. Mais en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut l'adapter comme on veut et comme on en a besoin. Et du coup, moi, j'ai connu des personnes qui sont venues me mettre des repères en relief sur ma machine à laver le linge, par exemple, pour que je sache quel programme fait quoi, etc. Donc, en fait, une fois qu'on prend ces repères, eh bien, on est complètement autonome, en fait.
Mmh. C'est une résidence, ou à part, on aura l'occasion d'en parler, à un personnel, quand même, qui est à disposition. Il n'y a rien de spécialisé dans les équipements des studios ou des appartements, hein, parce qu'il y a aussi des appartements.
Oui, pour les familles, réservés aux familles avec enfants.
Alors, pour rentrer dans cette résidence, on a peut-être oublié de mentionner...
Oui, alors, pour rentrer dans cette résidence, bien sûr, comme c'est réservé à des personnes malvoyantes ou non-voyantes, il faut constituer un dossier médical, et puis après, la commission de l'hôpital va examiner ce dossier, savoir s'il vous accepte ou pas.
Voilà, il faut que dans ceux qui rentrent, et on peut rentrer en couple, on peut rentrer en famille, enfin voilà, mais il faut qu'il y ait une personne déficiente visuelle.
Voilà, voilà. Voilà. Et en fait, moi je suis célibataire, mais j'ai constitué un dossier, et en plus, je n'étais pas en situation d'urgence quand j'ai fait ce dossier, et ça on me l'a demandé, et je le signale, c'est que moi j'étais encore chez mes parents, et donc je n'étais pas à la rue, donc je pouvais attendre un petit peu que se libère un studio, parce qu'apparemment ils étaient en pleine réfection et de rénovation de studio, parce qu'au fur et à mesure que ces studios, que les locataires partaient, ils refaisaient les salles de bain, notamment en enlevant les baignoires pour remettre des douches.
Oui,
et du coup, c'était un gros chantier. Et donc, bah, on ne fait pas ça en 5 minutes. Donc, il fallait que petit à petit, les studios se rénovent les uns après les autres. Et du coup, bah, moi, j'ai attendu tranquillement que se libère un studio et qu'il soit rénové. Et du coup, j'ai intégré au bout de 9 ou 10 mois, je crois.
Voilà.
Mais
voilà.
Moi, ça ne me gênait pas. Mmh. Je sais que, par exemple, ma voisine Karine, elle, ce n'était pas du tout le cas parce que Karine, tu travaillais et travaillais loin de Paris. Tu travaillais dans Paris, mais tu habitais loin de Paris. Et du coup, à Dreux, ça te faisait des énormes trajets.
Voilà.
Et du coup, par contre, toi, ton dossier a été beaucoup plus rapidement accepté.
Oui. Voilà. Oui, donc, en fait, on tenait compte à l'époque de la mobilité
de la situation
de la personne. Oui. Voilà, on va continuer, chère Isabelle et Karine, on va continuer l'émission après la pause musicale. Mais pour avoir eu l'occasion de préparer l'émission avec vous, je sais déjà ce qui va suivre. Et donc, Saja a concocté une pause musicale qui certainement vous plaira. Saja, alors qu'est-ce que tu nous as concocté, préparé comme pause musicale concernant cette fameuse résidence Saint-Louis?
D'accord. Je vous ai contacté Christophe Maé, Il est où le bonheur? On va l'écouter tout de suite.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là le bonheur.
il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là.
Donner une voix à celles qui n'en ont pas. Radio Campus Paris, 93.9 FM.
C'est vrai ça, il est où le bonheur? Merci, merci Saja pour cette belle pause musicale, plein de regrets, mais aussi plein d'espoir au fond d'avoir vécu tous ces merveilleux moments que Isabelle, vous allez poursuivre. Dans un tout petit moment, on va tout de suite donner la parole à Claire pour qu'elle puisse nous donner les numéros de téléphone utiles, nécessaires, qu'il faut bien garder précieusement. Claire, on vous écoute.
Merci. Donc vous pouvez nous poser des questions par mail, donc je vous donne le mail. donnezunevoix@radiocampusparis.org.
Oui, n'hésitez pas. On attend vraiment tous vos mails et on vous répondra systématiquement.
Alors, je vais vous donner des numéros de téléphone. Donc, la plateforme nationale de signalement de maltraitance envers les personnes vulnérables. Si vous êtes témoin d'un accès de maltraitance sur une personne vulnérable, appelez le 3977. Une autre association, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Si vous êtes une femme déficiente visuelle et que vous subissez des maltraitances et ou des violences, appelez le 01 45 66 03 97. Association Écoute Violence. Si vous êtes une femme en situation de handicap et que vous subissez des maltraitances, appelez le 01 40 47 06 06. L'association SOS Amitié, une personne bénévole, est à votre écoute 24 heures sur 24. Vous pouvez parler librement pour exprimer vos souffrances, votre solitude, vos difficultés. Appelez le 09 72 39 40
voilà.
50.
Voilà Claire. Claire, merci. Merci parce que le temps presse. Peut-être aura-t-on d'autres occasions de donner d'autres numéros. Sachez que dans toutes les émissions, on vous communique les numéros, mais je crois qu'on peut les trouver aussi on va faire en sorte qu'on puisse les trouver sur notre site, enfin, je sais pas, tout ce qui concerne l'émission. Vous pourrez trouver les numéros de téléphone. On va faire en sorte que vous puissiez les trouver. On va revenir vers vous, Isabelle. Alors, ce bonheur, Isabelle, racontez-nous comment c'était.
Le bonheur, il est là. Et il était là et il était surtout là, voilà, quand je suis arrivée il y a 25 ans dans cette résidence qui était très accueillante. Il y avait, c'est vrai, plusieurs personnes qui nous permettaient d'avoir des animations. Il y avait des chorales, il y avait plusieurs chorales par semaine. Il y avait des sorties qui était organisée pour ceux qui le voulaient, accompagné par le personnel de la résidence.
La piscine,
il y avait des cours de piscine, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
La cafétéria,
il y avait la cafétéria où c'était vraiment des lieux de rencontre très sympathiques où on pouvait partager, prendre des nouvelles des uns des autres.
Les Noël, les restaurants.
Il y avait un beau goûter de Noël avec une belle animation, des petits cadeaux. Tout ça, c'était très, très sympathique. Et on avait Didier, pour ne pas le nommer, qui faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour réparer nos petits, petits soucis matériels.
Dans les appartements, oui.
Vraiment, c'était très appréciable. On l'a beaucoup regretté quand il est parti à la retraite.
Oui, oui. Vraiment, et c'était selon ce qu'on a pu entendre, hein, puisque bien sûr, on ne pouvait pas inviter tous les résidents qui souhaitaient témoigner. Il y avait une vraie dynamique qui était d'ailleurs inspirée par Madame Fallet. C'est-à-dire que vraiment tout le monde était au service des personnes handicapées, vraiment. Ouais. Vous pouviez demander un service à Micheline qui s'occupait de la cantine, à la secrétaire. Il y avait des files d'attente incroyables pour la secrétaire puisque c'était une époque où les gens n'étaient pas informatisés, mais c'était en plus de tout son travail, les gens étaient vraiment là pour les personnes handicapées.
Oui, puis alors moi je me rappelle quand je partais un peu l'été en famille, soit ils me gardaient mon courrier, soit ils avaient la gentillesse de me le renvoyer sur place. Enfin, c'était très sympa. Vraiment, Il y avait beaucoup, beaucoup de bienveillance. Hein.
Voilà, on comprend comment les gens étaient heureux finalement. Et c'est un peu là, cette chanson hein, qui reflète très, très bien cette émission. C'est un peu, en fait, à quel point les gens étaient tellement heureux qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient heureux.
Exactement. Hein. Exactement.
Voilà, donc on peut demander à ceux qui écoutent l'émission de faire écouter l'émission à s'ils connaissent, s'ils sont toujours en contact avec les personnes qui ont travaillé dans cette résidence, de leur dire, bah, écoutez, il y a un hommage pour eux dans cette émission.
Tout à fait.
Et Isabelle, si tu veux bien, malheureusement, il va falloir qu'on parle d'aujourd'hui. Comment ça se passe, puisque vous sembliez parler de ça au passé?
Alors, évidemment, les choses évoluent, les gens évoluent, les personnels changent. Et maintenant, mais malheureusement, c'est vrai que le Covid est passé par là. Et qu'il y a eu un vrai tournant, et que du coup, on a fermé la cantine, on a fermé la cafétéria, on a supprimé les chorales, on a supprimé les animations, les sorties, et du coup, y a beaucoup plus de solitude. Et du coup, c'est pas si drôle que ce n'était par rapport à ce que j'ai connu dans les années 2000, quoi.
Oui.
Et du coup, voilà, bon, c'est à nous de nous prendre en charge parce que Didier est parti. Donc, quand il y a des travaux à faire dans l'appartement, faut trouver quelqu'un toute seule pour réparer ceci, cela. Et c'est pas si évident que ça de trouver.
Non, parce que du coup, c'est la porte ouverte à tous les escrocs de France et de Navarre.
Exactement.
D'après ce que j'ai entendu.
Exactement. Et puis, hier, il y a eu une coupure d'électricité dans les parties communes. Il n'y a pas d'électricien sur place. Débrouille-toi. Plus d'électricité dans l'ascenseur, plus d'électricité dans les... on se sent un peu... un peu isolé, un peu livré à nous-mêmes. Et on sent que... Et puis maintenant, il y a des travaux sur le parking qui sont extrêmement bruyants. Même la nuit, à 1h du matin, on est réveillé par des travaux et ça devient très pesant, quoi. Très, très pesant. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, il faut trouver notre bonheur.
Et vous parliez des personnes âgées aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont là depuis 50 ans.
Oui, qui sont là depuis bien plus longtemps que moi. Il faut qu'elles se débrouillent par elles-mêmes, parce que si elles ne sont pas autonomes, il n'y a personne pour les aider. Donc, voilà.
Alors qu'à l'ancienne, il y avait de l'aide quand même. Le personnel, me semble-t-il, venait pour accompagner, pour aider, pour...
Et il y avait une infirmière, exactement. Il y avait un médecin, il y avait tout ça. Alors que là, on est obligé de trouver son médecin, de trouver ses infirmières. Ce matin, j'avais encore une demande d'une de nos voisines qui disait...
On vient d'entendre Karine qui est sortie de son trou.
Voilà, notre petite voisine qui disait, Isabelle, est-ce que tu peux me donner l'adresse d'une infirmière qui vient à domicile faire des prises de sang?
Isabelle, vous nous racontiez quand vous êtes rendue, quand vous faites les courses à une dame âgée, vous vous aperceviez qu'il n'y avait parfois rien.
Moi, les toutes premières fois où j'ai fait ces courses à cette dame, qui était une de mes voisines, sur le même palier, hein, et on ne se connaît pas, donc bon, et là, elle est tombée il y a quelques années, et donc j'ai pris un peu l'initiative de lui faire 2-3 courses, et à ma stupéfaction, quand j'ai ouvert le frigidaire, il n'y avait pratiquement rien dans le frigidaire. Oh, j'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas vous laisser comme ça. Alors du coup, j'ai pris l'habitude régulièrement de faire les courses de Marie-Thérèse pour qu'elle ait quelque chose dans son frigidaire. Mais
alors qu'avant, ce qui palliait à ça, c'était la cantine, quoi.
Et là, moi, je suis pratiquement certaine maintenant que si elle est tombée il y a plusieurs années, c'est parce qu'elle était anémiée et qu'en fait, elle était sous-alimentée. Et moi, j'ai trouvé maintenant un compte-rendu d'hospitalisation de cette dame et il disait qu'elle était dénutrie. J'ai dit, j'avais donc raison. Et en fait, du coup, je me fais fort de lui acheter des bonnes choses pour qu'elle mange.
Merci pour l'attention que vous accordez à ces femmes. Mais c'est aussi le rôle de chacun de nous de veiller les uns sur les autres. Puisque le temps a changé, nous sommes dans une autre époque. C'est autre chose, c'est ainsi. Je crois que cette résidence, on est censé... quelqu'un me disait que c'est fallait le prendre comme un tremplin. C'est quand même curieux pour un lieu où les gens gens vivent depuis plus de 50 ans là-dedans, hein, le tremplin.
Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon, il y a aussi des belles choses, il y a des belles amitiés, il y a des belles choses qui se vivent aussi. Il y a des choses qui ont changé, certes, mais c'est peut-être aussi notre mission, c'est de se dire, c'est aussi important de veiller les uns sur les autres et d'oser se dire, est-ce que ma voisine ou mon voisin, il n'est pas isolé, et est-ce qu'on se préoccupe de savoir comment il fait ses courses et comment il peut se nourrir.
Absolument.
Et même pour aller à l'hôpital des Quinsoins, qui est à côté de chez nous, puisqu'il est collé à notre bâtiment, y en a qui ne peuvent pas aller tout seuls, alors rendez-vous d'ophtalmo. Oui, oui. Et donc, est-ce que je peux donner un petit bras ou essayer d'aider pour accompagner? Et c'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment changer la vie, quoi.
Voilà, mais ce sera le mot de la fin, Isabelle. Aider nos amis, les gens qui nous entourent, à essayer de les aider et de leur changer la vie avec des actes très simples, leur tendre un bras, s'aider entre gens vulnérables. Eh bien oui, on peut s'aider, oui, ça paraît un peu antinomique, mais c'est quand même vrai. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc si on veut être aidé, il vaut mieux aider son prochain. Ça fait partie de notre mission à chacun de nous. Isabelle, un grand merci. Merci infiniment d'avoir... Bien sûr, nous n'avons pas pu aborder tous les sujets. Je sais que vous voulez me parler de personnes âgées qui étaient en déambulateur pour aller faire leurs courses, des trucs incroyables. Malheureusement, on n'a pas pu. J'espère peut-être avoir l'occasion de vous réinviter. J'espère que ce jour-là...
Avec plaisir.
Ouais, je serai ravie. J'espère que ce jour-là, Karine osera prendre la parole.
Elle a aussi des choses à dire.
Certainement. Merci en tout cas à toutes deux d'être venues jusqu'à nous et d'avoir témoigné sur cette résidence. C'était important, au fond, témoigner sur la résidence et témoigner au nom des résidents. Merci infiniment d'avoir rendu hommage à toutes ces femmes et ces hommes, puisqu'il y avait aussi Monsieur Charles, qui se sont merveilleusement occupé des personnes handicapées, mais c'est ainsi, c'était un autre temps. Claire, un grand merci. On ne pourra pas donner d'autres numéros. On pourra les trouver où, Claire, les numéros de téléphone? Ah, Claire nous a quittés.
Claire est là, mais Claire ne sait pas.
Ah, Claire ne sait pas. Bon, alors on va essayer de vous les mettre sur le site internet. Merci Saja. Saja, merci infiniment d'avoir réalisé l'émission. C'était ta première et c'était une merveille. Merci, tu t'en rappelleras, et nous aussi, on s'en rappellera longtemps de cette émission. Merci infiniment, et à vous tous, je vous dis, et toutes surtout, je vous dis à dans 15 jours.
Au revoir.
Donnez une voix à celles qui n'en ont pas. Radio Campus Paris 93.9 FM.